Bonjour à tous, on est ici pour discuter de classification de textes avec Lucène Solar et surtout LibFZN, avec Magirus Fanzi, dans le cadre donc du podcast numéro 10 de Fréquence Valtech. Donc bienvenue à toi Magirus.
Merci, bonjour Eric.
Donc moi je suis Eric Lemerdi de Valtech et je vais poser quelques questions à Magirus. La première, ça va être de lui demander de se présenter.
Bien. Donc, je suis Magirus Fanzi, je suis développeur d'applications chez Valtech, avec une inclinaison, une préférence pour les applications de recherche d'informations, essentiellement de la recherche sémantique, d'où d'ailleurs mes présences dans les conférences sur les classifications de tests et de textes et la recherche d'informations avec Lucène et Solar.
Donc en particulier, t'as été parlé à une conférence il y a pas longtemps.
Oui, c'était en novembre. Oui. D'accord. C'était la conférence Lucène Solar Evolution.
D'accord.
Qui avait lieu à Dublin.
Super.
Donc j'ai fait la présentation justement sur la classification des textes avec Lucène Solar. Et
donc justement, bon, je pense qu'on mettra le lien dans le podcast pour parce que t'as été filmé.
Ben oui.
Donc il y a ta présentation qui dure une heure avec tes slides et tout ça.
Voilà, la vidéo est disponible sur YouTube et sur le site officiel de la conférence.
Donc ça, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que c'est en anglais. Donc nous, ce soir, on va en profiter pour que tu nous aies, de t'avoir à la maison là, pour que tu nous expliques et qu'on discute ensemble dessus en français, quoi.
Ouais.
Donc déjà, le titre de ta présentation, c'est la classification de texte. Donc, c'est quoi, ça sert à quoi, en fait, la classification de texte? C'est quoi les domaines d'application?
Donc, disons, d'abord, la classification de texte, c'est pouvoir, en fait, catégoriser les éléments qui arrivent, les éléments textuels, bien sûr, dans plusieurs catégories différentes. Donc, un texte qu'on reçoit peut appartenir à zéro, une ou plusieurs catégories. Donc, les applications... Nous utilisons ça essentiellement pour le moment dans le cadre de la recherche d'information. La recherche d'information, c'est d'abord textuel, c'est la recherche de texte. Et nous, le texte par défaut, quand on utilise dans le moteur de recherche, c'est au niveau de mots-clés. Donc, si le mot-clé apparaît dans le texte, le moteur retourne le document, sinon il ne le fait pas. Mais on se rend compte qu'il faut aller plus loin et donner une réponse sémantique à la recherche de l'utilisateur.
D'accord. Donc ça, c'est un peu naïf, quoi. C'est dire, j'ai plein de documents et puis finalement, je vais regarder, si je cherche un mot-clé à l'intérieur, je vais juste regarder si le mot-clé apparaît dans le document et si oui, alors je dis qu'il appartient à cette catégorie.
Mais oui, c'est pas aussi naïf que ça.
Ouais.
Il y a un algorithme, mais disons, c'est basé sur les mots-clés.
D'accord.
Que si le mot-clé n'apparaît pas, c'est clair que le document ne remontera pas.
Okay, okay.
Donc, après, bon, l'algorithme de similarité qui permet de remonter le document est moins que naïf. Donc, c'est assez intelligent, mais seulement c'est basé sur le mot-clé. Il faut quand même que le mot apparaisse dans le document.
Donc, avec la classification et surtout l'IBSVN, ça permet d'aller plus loin que
l'algorithme basé sur les mots-clés. Effectivement. Et pour bien comprendre l'intérêt, il faut revoir encore le but de la recherche d'informations. Qu'est-ce qu'on fait quand on met sur pied un moteur de recherche? C'est pour répondre aux besoins d'information de l'utilisateur. Donc, on ne répond pas à la requête de l'utilisateur, c'est différent. Aux besoins d'information de l'utilisateur. L'utilisateur, il a un besoin d'information.
D'accord.
Et il l'exprime par une requête. Et le moteur doit répondre à ce besoin d'information et non à sa requête.
Donc, tu différencies besoin d'information, c'est vraiment ce qu'il veut.
C'est vraiment ce qu'il
veut. Requête, c'est la façon dont il est contraint de le formuler au système.
Exactement.
Okay.
Il le formule d'une certaine façon et le système doit pouvoir répondre à son besoin d'information. Et donc, quand on utilise la recherche sémantique, la sémantique, c'est le sens. Donc, on essaie au mieux possible de répondre à son besoin d'information.
D'accord.
En utilisant les éléments qu'il nous a fournis.
Ouais, ça a de la valeur. Ouais. Donc, pour être peut-être un peu plus concret, est-ce qu'on peut essayer de prendre un exemple d'application?
Donc, prenons un exemple d'application où j'ai mis en place justement un moteur sémantique. C'est dans le cadre d'un job board.
D'accord.
Où les utilisateurs viennent chercher les offres d'emploi.
D'accord.
Donc, imaginons un chercheur d'emploi qui vient, il veut se caser dans une boîte dans le domaine du marketing web. Donc, il entre web marketing. Le mot web marketing.
Donc, il veut toutes les offres d'emploi qui correspondent au web marketing.
Au web marketing.
Ouais.
À ce moment-là, dans la base, de données, on n'a pas d'offre d'emploi web marketing. Le mot-clé web marketing n'apparaît pas dans l'offre, dans une offre d'emploi. En revanche, on a des offres d'emploi où le mot-clé e-marketing apparaît.
D'accord.
Donc, dans le cadre de la recherche par mot-clé, tout simple, il reçoit zéro résultat.
Et ouais. Donc, il est très déçu, il rentre chez lui, il dit bon, déçu, je vais continuer à être
au chômage. Il n'y a pas d'offre dans mon domaine.
Ouais, ah, c'est ballot.
Voilà, c'est ballot comme tu dis. Alors, maintenant, si on a utilisé la classification, on est en mesure de dire qu'une offre e-marketing et une offre web marketing fait partie de la même catégorie. Donc, quand l'utilisateur fait une recherche sur web marketing, on regarde d'abord au préalable de quelle catégorie il est en train de faire la recherche. Et on dit qu'il est en train de faire la recherche sur la catégorie, disons marketing sur le web marketing, voilà, où e-marketing fait partie. Et donc on va étendre sa requête initiale avec les catégories recherchées.
Mais si on étend la requête, ça risque d'être moins pertinent, la réponse.
Oui, mais on fait attention parce que les moteurs de recherche ont un mécanisme de boost.
D'accord.
Donc, on donne un boost très important au mot-clé que l'utilisateur a rentré, parce que même si on essaie de répondre à son besoin d'information, et si son besoin d'information correspond à son mot-clé, bingo, on a gagné. Donc, c'est pour ça qu'on donne un boost très important à ce mot-clé.
D'accord.
Et derrière, on étend avec la catégorie, avec un boost inférieur.
D'accord.
De sorte que si des documents apparaissent avec ce mot-clé, ces documents-là viennent en tête et suivent après. Et dans le cas de notre chercheur d'emploi, s'il n'y a pas d'offre web marketing, il sera bien content de voir qu'on a proposé une offre e-marketing qui correspond
sûr.
À ce qu'il veut.
Et, ouais.
Ouais.
Et donc là, on a rempli notre mission.
Exactement.
D'accord. Donc maintenant, si on essaie de rentrer un peu plus dans les détails de l'algorithme de classification SVM, il faut comprendre un peu comment ça marche en dessous, en fait. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une phase d'apprentissage? Et comment est-ce qu'il arrive à répondre correctement à notre requête, faire des analogies sur les catégories et compagnie?
Donc, disons déjà que la classification des textes de l'apprentissage est supervisée.
Donc, ça veut dire quoi alors, supervisé?
L'apprentissage supervisé, c'est nous sommes des experts. Nous construisons le système, nous sommes censés être des experts. Si on n'est pas en mesure, en tant qu'expert, de dire que tel document va dans telle catégorie, on ne pourra pas amener la machine à le dire.
D'accord.
Donc
à la base, il y a quand même un humain qui...
Voilà.
Ça doit être... C'est pas plus intelligent qu'un humain. C'est au moins aussi intelligent qu'un expert.
Non, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, disons qu'il est il est plus intelligent que l'humain dès lors qu'on lui a indiqué quelques exemples.
D'accord. Ouais.
C'est ça la particularité de l'apprentissage supervisé.
D'accord. En fait.
Bon. Après, on a l'apprentissage non supervisé où on donne juste certains patterns. Et la machine peut travailler. Je suis un fabricant de t-shirts. Il peut donner les tailles de la population, les tailles des personnes pour une population cible. Et je lui dis, bon, voilà, trouve-moi 3 tailles de t-shirts. Et là, justement, c'est une apprentissage non supervisé. C'est du clustering. Il peut me faire 3 clusters en fonction de ces tailles. Il me dit, bon, voilà, là, tu as 3 clusters. Et je peux décider que, bon, tel cluster va à la taille S, ceci à la taille L et là à la taille XL. Donc, ça, c'est non supervisé, vous pouvez me le faire. Donc, pour revenir dans le cadre de l'apprentissage supervisé, j'indique de bons résultats à l'utilisateur. Donc, pour les offres d'emploi, je lui dis, tiens, ça, c'est une offre d'emploi Java. Là, c'est une offre d'emploi .NET. Là, c'est une offre d'emploi Python. Je lui indique comme ça plusieurs exemples pour la même catégorie. Donc, la machine va consommer ces exemples. Donc, au fur et à mesure qu'il consomme, il raffine son modèle. Il raffine son modèle, il essaie de découvrir le pattern, les caractéristiques de cette classe.
D'accord.
Il raffine son modèle.
Quand tu parles de classe, c'est par exemple .NET.
Voilà.
Ça, c'est une classe.
C'est une classe. .NET, c'est
classe
une classe.
De
Java, c'est une classe. Si je considère mon exemple.
Okay.
Python, c'est une autre classe. Voilà. Donc là, on est dans le cadre d'une classification multiclasse.
D'accord. Non. C'est multiclasse.
Donc, ça, c'est multiclasse.
Classe binaire, ce serait... Juste, est-ce que cette offre d'emploi est du Java, oui ou non, quoi.
Exactement. Ou alors, un autre exemple simple que tout le monde connaît, est-ce que mon email est un spam ou pas?
D'accord.
Le moteur...
D'accord. Donc là, tu utilises juste binary class parce que tu as besoin d'une réponse.
J'ai l'email, je dis oui, non. Spam, non, spam. Voilà.
Okay.
Dans le cadre multiclass, j'ai les différents éléments. Je dis, bon, voilà, j'entraîne. Bon, moi, je suis plutôt fan de One versus the Rest. One versus the Rest, ça veut dire quoi? J'ai plusieurs classes
D'accord.
à découvrir.
Ouais.
Donc, j'entraîne un modèle par classe.
Un modèle
Donc,
par
je
classe.
fais plusieurs modèles binaires. Donc, si j'ai trois classes, j'ai fait trois modèles binaires.
Ah, d'accord.
Donc,
D'accord.
ça fait que quand j'ai un exemple que je veux classifier, j'interroge les trois modèles.
D'accord, donc tu peux. Tu as un exemple que tu soumets au système, t'interroges, et puis tu as ta réponse individuelle en fait par.
Voilà,
D'accord, donc tu fais
exactement.
du multiclass
Du
one
multi-class
versus the
one
rest.
versus the rest. Ça
D'accord,
veut
je
dire que
comprends.
quand je considère la classe Java, donc j'ai Java, .NET et Python d'un côté. Donc Java c'est le one, et Python et .NET c'est le reste.
Ok.
Voilà, c'est ça. Donc dans l'apprentissage supervisé, c'est ça, on indique les bons exemples au modèle, et lui il apprend
D'accord.
les
Mais
caractéristiques.
là, pour l'instant, ça a l'air encore un peu magique. Là, j'ai l'impression qu'il faut encore qu'on rentre un peu dans le détail pour comprendre comment il apprend, en fait, en quelque sorte.
Donc, comment est-ce qu'il apprend? Ça dépend
C'est comme les
du.
jeunes enfants, c'est la
Oui.
répétition.
Ben voilà, c'est qu'on appelle la répétition. Un
Ouais.
enfant, comment est-ce qu'il apprend l'alphabet? On lui dit, tiens, ça c'est A. Il dit, il reconnaît A. Ça c'est B. Il reconnaît la lettre B. Demain, on lui montre A minuscule. Il dit, ah oui, ça c'est aussi A. On dit que oui, hier c'était A majuscule.
Et ouais.
Ça c'est toujours A. Là, il retient.
D'accord.
Donc demain, quand on va lui présenter la lettre, il va dire, mais ça c'est A. Donc en fait, ça me fait pareil. Sauf que dans le cadre de la classification des textes, il peut déceler des éléments que nous, en tant qu'experts, on n'avait pas vus. Donc, et ça, on peut le
Et par
savoir
l'effet de la masse, en
par
fait.
l'effet de la masse. Par l'effet de la masse, il voit qu'il y a un pattern qui se retrouve sur les 1000 exemples, sur les 10 000 exemples qu'on lui a proposés. Mais en tant qu'être humain, déceler tous ces éléments sur les 10 000 exemples, c'est un peu compliqué.
Et ouais. Donc c'est là où
Donc,
la machine nous aide à être
c'est là où la machine va être
plus
efficace.
forte qu'un expert, plus
Exact.
efficace et peut-être éventuellement plus forte.
Oui. Dès lors qu'on a fourni les exemples, il est justement plus efficace pour classifier. Parce qu'il suffit d'imaginer un seul instant. C'est que Valtech a une super application en ligne qui est OneCalendar. Imaginez un seul instant un être humain qu'on recrute et on lui dit, OK, quand un événement arrive, il faut le catégoriser. En Java ou en .NET ou en Scala. Je pense qu'après une semaine, si la personne tient une semaine, elle est très courageuse.
Ouais, parce que c'est fastidieux en fait
C'est
comme travail, c'est pas
fastidieux,
très intéressant.
c'est compliqué, c'est pas très intelligent, c'est pas très intelligent. Et en plus, on court beaucoup de risques qu'on nous tape sur les doigts, parce que comme ça, on nous fatigue, on va mal
Et
classifier,
ouais,
alors que la
d'accord.
machine, on va pouvoir très bien le faire.
La machine, elle est pas fatiguée, donc
Non.
elle garde le
Non.
même niveau de qualité.
Non. Non.
D'accord.
Et donc, pour savoir comment ça fonctionne dans le détail, il faut rentrer dans l'algorithme utilisé.
D'accord.
Il faut
Donc,
rentrer dans l'algorithme.
est-ce qu'on peut faire un choix d'algorithme? Il y en a plusieurs ou...
Il y en a plusieurs. Il y en a
D'accord.
plusieurs pour la classification, en fait. Il y a plusieurs algorithmes. On a le naive Bayes, on a la régression logistique, et on a le réseau de neurones comme
D'accord.
possibilité. Et moi, pour la classification des textes, après une revue de littérature, c'est pas moi qui le propose, parce qu'il y a des éminents chercheurs qui sont assis dans les labos, qui ont fait la comparaison de tous ces éléments avec des critères très objectifs de performance, d'efficacité, efficacité en termes du taux d'erreur
D'accord, le taux
qu'on
d'erreur, ouais.
commet,
Ça c'est
voilà.
important.
Donc, ils ont analysé tout ça de performance parce que on fournit un nombre très important d'exemples pour que la machine apprenne. Donc,
Donc ça
si
c'est une
ça ne peut
contrainte en
pas,
fait,
oui, c'est une
c'est
contrainte.
d'avoir beaucoup d'exemples à la base.
Ben oui, déjà on sait que le réseau de neurones, c'est assez lourd. C'est assez lourd pour traiter la classification.
D'accord.
Algorithme compliqué aussi à mettre en œuvre. Donc,
À la différence de...
à la différence de SVM.
D'accord. SVM,
Là,
c'est le gagnant, c'est
oui,
lui
mais
qu'il faut
oui,
utiliser.
SVM, c'est vraiment le gagnant de. Quand on lit ces résultats de recherche-là, et l'ayant mis en œuvre, je partage
Tu confirmes.
ces avis parce que,
D'accord.
oui, ayant mis en œuvre au moins c'est la régression logistique, les réseaux de neurones et SVM dans le cadre de la classification des textes, et je confirme que SVM, c'est efficace,
D'accord.
ça donne de très bons résultats et ça permet une certaine lisibilité. Parce qu'avec SVM, on n'a pas une boîte noire. Donc, à la fin, quand on examine le modèle qui est produit, on sait pourquoi les offres vont être classifiées Java. C'est-à-dire que moi, en tant qu'expert, je lui ai fourni des exemples, mais quand je regarde le modèle, je dis, eh bien là, je n'avais pas pensé à ceci. Parce que je vois des éléments, c'est le poids du vecteur, c'est le poids des éléments en fait. Donc, concrètement, comment ça se passe?
Déjà, SVM, ça veut dire quoi?
SVM, c'est Support Vector Machine.
D'accord, donc ça va parler de vecteurs. Donc le but, ça va être d'identifier des vecteurs pour classifier.
Oui, en fait, il récupère des éléments, il convertit le texte qu'on fournit et convertit en vecteur.
D'accord.
C'est un vecteur dans un espace vectoriel qui a pour, on peut considérer chaque mot du document restant au niveau du texte, pour
Ouais.
considérer chaque mot du document comme une dimension dans
D'accord.
l'espace vectoriel. Donc on a affaire à un espace avec beaucoup de dimensions.
Beaucoup de
Donc
dimensions,
c'est une caractéristique des textes. C'est pour ça que la classification des textes attire cette attention des chercheurs.
oui.
Parce que bon, les textes, c'est une très grande dimension.
D'accord.
Donc.
Par exemple, dans ta présentation, je me souviens, pour nous expliquer comment c'est projeté en fait dans cet espace-là, tu nous fais un exemple à deux dimensions. Et donc là, un texte, il aurait autant de dimensions que
Que
de
de
mots,
mots, oui, que de mots
quasiment à,
distincts.
ouais, que de
Oui,
mots distincts.
exactement. Que de mots distincts.
Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter en fait.
Oui, on ne représente pas ça sur un plan.
Voilà, c'est
Un
ça.
plan, c'est deux
Deux
dimensions.
dimensions, mais.
Après, ça, c'est les hyperplanes. Donc, tu ne te représentes pas ça
Mais en
comme
fait,
ça.
peut-être que pour simplifier, on peut se représenter ça en 2D,
Oui, on
sur
peut poser
un.
ça en 2D. Supposons un instant qu'on a le titre d'une offre d'emploi. Où on nous dit offre d'emploi ingénieur Java.
D'accord.
Voilà. Donc, si on veut représenter ça, c'est deux dimensions.
Deux dimensions,
Une
oui, tout à fait.
dimension que ingénieur, l'autre dimension sera Java.
Ouais.
Donc, le modèle, il va représenter le document. Tous les exemples qu'on va lui donner, il va représenter de cette façon-là.
Donc
Supposons que
sur
chaque.
un graphe,
Voilà.
en
Donc,
deux dimensions,
ouais,
il va nous dire
dans
si
un
on est plutôt
hyperplan.
ingénieur, plutôt
Voilà,
Java,
dans un
etc.
hyperplan. C'est-à-dire qu'on a fait au titre, on ne sera pas toujours à deux dimensions parce qu'il va avoir d'autres mots.
Bien sûr,
Donc
ouais.
voilà, ça va s'étendre. Si on prend un seul exemple, on est dans un plan. Donc, il va représenter ça, les vecteurs, dans cette dimension. Et une des particularités de SVM, c'est qu'il va essayer, via l'application d'une fonction non linéaire, de traduire ces éléments dans un autre espace vectoriel de plus grande dimension. Ça, c'est de façon générale.
D'accord.
Mais en ce qui
Donc pour un
concerne
autre.
la classification des textes, on ne le fait pas. Dans une dimension plus grande, on utilise une fonction linéaire, dont on reste dans le même espace que
Donc là,
l'espace d'origine.
c'est parce que le problème qu'on lui soumet, il s'adapte bien. C'est-à-dire que de base, un texte, si on prend un mot égale une dimension, on a suffisamment de dimensions
Oui, on a
pour
suffisamment de
que
dimensions pour le
LibSVM
texte.
fonctionne bien.
Exactement, on a
D'accord,
suffisamment de dimensions pour le texte, parce que le fait de projeter dans un espace de plus grande dimension,
oui.
c'est de pouvoir, à la fin, avoir un modèle qui généralise très bien.
Ah, d'accord.
Voilà.
Donc ça
Pour
vient de la propriété
ça.
caractéristique de pourquoi SVM est efficace. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de dimensions pour
Voilà,
pouvoir bien
il faut beaucoup de
généraliser.
dimensions, voilà, pour bien généraliser. Il faut beaucoup de dimensions.
Et bien généraliser, en fait, nous, les développeurs, on n'aime pas trop quand il y a trop de généralisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce
Ah,
que ça veut dire généraliser dans le cadre
en fait,
d'un algo de classification?
oui, généraliser dans le cadre d'un algorithme de classification, c'est en fait. Disons, on l'a vu pour la présence supervisée, on indique des exemples.
D'accord, des
Donc,
exemples.
prenons la chose à l'inverse.
Ouais.
Si l'algorithme ne généralise pas bien,
Ouais.
quand on va remettre à l'algorithme des exemples qu'il a déjà vus, il va très bien classifier.
D'accord. Donc
Il va dire,
ce
voilà,
qu'il a
il
déjà
va
vu,
donner très,
il s'est donné la bonne
il s'est
réponse.
donné la bonne réponse.
OK.
Là, et quand on va donner un élément qu'il n'a jamais vu, alors il y a de fortes chances qu'il ne donne pas une réponse satisfaisante.
D'accord, il
Et
va se
là, on dit qu'il
tromper.
va se tromper.
Ouais,
Et là,
d'accord.
on va dire qu'il ne généralise pas. Et
D'accord.
ça ne nous avance pas.
Alors,
Alors,
au contraire,
au
moi, ce que je
contraire.
comprends, c'est qu'un algo qui généralise bien, enfin, un algo qui généralise bien, c'est que tu lui soumets un nouvel exemple qu'il n'a jamais vu, et après, il est capable de donner la bonne réponse. Il
Ben,
se
c'est
trompe
ça, exactement.
peu, et
Il se
donc là,
trompe
ça,
très peu.
d'accord.
Donc, tu lui donnes un exemple qu'il a déjà vu. Bon, logique, il le classifie correctement. Et quand tu viens avec un nouveau pattern, il est en mesure de te donner le bon résultat.
D'accord,
Donc, il
je
a en
vois.
fait un taux d'erreur très faible sur les exemples qu'il n'a pas encore vus.
Et donc, comment on fait pour maximiser en fait ce taux de succès de
Donc,
l'IBSVN? Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait avoir beaucoup de dimensions. Donc, ça, c'était garanti de base,
ça, c'est le
parce
modèle qui
que
le fait.
un document possède beaucoup de mots. Et quelle est l'autre caractéristique?
Le document, il possède déjà plusieurs dimensions.
Ouais.
Donc, le fait qu'il possède plusieurs dimensions, on n'a pas besoin de le transposer dans un espace plus grand. Donc, ça, c'est une propriété des textes. Donc, on utilise le modèle linéaire. Mais après, pour bien généraliser, on a aussi une tâche en tant que data scientist.
D'accord.
Donc, il faut très bien concevoir l'ensemble de le training set,
D'accord.
c'est-à-dire l'ensemble de documents qu'on utilise pour entraîner le modèle. Donc, on a un training set qui est fixe. Il faut définir aussi un bon ensemble de validation set à côté
D'accord.
où on va tester la généralisation du modèle.
D'accord.
Donc, et dans le training set, dans la présentation, nous essayons de bien présenter ça. Comment est-ce qu'on peut mettre les différentes proportions de documents? Parce que dans le training set, il faut lui indiquer non seulement les documents qui font partie de la classe, mais il faut aussi lui indiquer les documents qui ne font pas partie de la classe.
D'accord.
Donc il faut un bon pourcentage. Il
Ah
faut lui
oui,
dire
d'accord.
que pour il est en train d'entraîner un modèle pour du Java, il faut
D'accord.
lui dire ça, c'est une offre d'emploi Java. Ça, c'est une offre d'emploi qui n'est pas Java.
D'accord.
Donc,
Mais par exemple, tu prends quelque chose de diamétralement opposé à du Java, où tu vas dire, tu vas donner un exemple, un contre-exemple finalement, assez proche du Java pour
voilà,
vraiment qu'il construise une
exactement. Mais
frontière un
voilà, c'est ce qu'il
peu.
faut faire. Parce que
D'accord.
si on lui dit ça, c'est
Donc
du
ce qu'il faut
Java,
faire, c'est
oui.
des exemples proches du Java, mais qui ne sont
Voilà,
pas du Java,
voilà.
pour être proche
Ah,
de la limite en fait.
exactement. Dans le cadre d'une classification pour les offres d'emploi, il faut
Ouais.
faire quelque chose déjà multi-classe, multi-domaine.
D'accord.
Donc, on va prendre des sous-domaines, développement d'applications. Donc, je n'aimerais pas qu'une offre d'emploi Java soit prise comme une offre .NET.
D'accord.
Donc, je vais
Alors
essayer
qu'en
dans
fait, elles
ce...
se ressemblent un peu.
Elle
Pour
se
quelqu'un qui n'est
ressemble.
pas expert du
Voilà.
domaine, il y a peut-être deux ou trois choses qui changent.
Exactement. Il y a deux
D'accord.
plans. Donc, je veux vraiment qu'il classifie très bien. Ça me fait très bien la différence entre une offre d'emploi Java, développement Java, et une offre d'emploi développement .NET. Je suis content.
D'accord.
Parce que ces deux-là ont beaucoup de choses en commun
Ouais, je
dans le
comprends.
libellé de l'offre d'emploi. En revanche, une offre d'emploi Java et une offre d'emploi marketing, il y a très peu de chances qu'il se trompe quand il a déjà un modèle Java, qu'il se trompe et qu'il classifie une offre d'emploi marketing comme du Java. Donc il y a
Ouais.
très peu de chances. Mais il peut se tromper avec du .NET si le mot Java apparaît quelque part. Les choses se ressemblent.
Ou si tu emploies
Voilà.
par exemple le langage de la programmation orientée objet, ce genre de choses, c'est des choses
Exactement, c'est les
que
choses
Java et
qu'ils ont
.NET
en
ont en commun.
commun.
Ouais.
Voilà, ils ont en commun l'orienté objet, ils ont en commun les termes comme développement, comme développeur, comme et parfois les recruteurs, ils vont dire une expérience Java, peut-être bienvenue pour une offre .NET.
Ouais. Mais ça nous est jamais arrivé, ça, de
Donc,
recevoir des offres d'emploi qui cadraient pas juste parce que c'était. Enfin, ça arrive de temps en temps, ça, des
oui,
recruteurs qui sont un peu nouveaux et qui se
voilà.
trompent eux-mêmes, en
Oui,
fait, ce qui montre
il y a
que
les
c'est proche,
recruteurs
quoi.
qui labellisent des offres d'emploi en fait qui font partie de
Ouais,
plusieurs catégories.
c'est ça.
Donc, et le modèle est capable de le dire. Il est capable de dire cette offre d'emploi est en même temps du Java, c'est en même temps du .NET, c'est en même temps du Python. Et là, c'est un problème pour le recruteur.
Ouais.
D'ailleurs, sur un site d'offre d'emploi, quand un recruteur saisit son offre, c'est le système, on peut étendre la saisie du recruteur, aider aussi le recruteur avec la classification.
D'accord.
Il saisit son offre d'emploi, on soumet au module de classification et on dit au recruteur, maintenez votre offre d'emploi, notre module, notre système pense que ça fait partie de trois catégories, des trois catégories Java, .NET et Python. Est-ce
D'accord.
que c'est vraiment ce que vous souhaitez?
En fait, il peut quasiment faire aussi de la
Et,
recommandation de
ben,
classe
ben oui,
sur
ben oui.
une nouvelle offre.
Mais oui, ça, c'est les avantages de ce
Ouais,
modèle-là. Et
d'accord.
quand on utilise quelque chose comme SVM, qui n'est pas opaque, il peut aussi nous dire pourquoi est-ce qu'il classifie l'offre d'emploi comme du Java. Et ça, on peut
C'est
aussi le
intéressant ça.
remonter au recruteur. On peut lui dire l'offre est classée comme Java parce que c'est classifié comme Python, parce que c'est classifié comme .NET, parce que. Et là, il a un retour. Il a un retour
D'accord.
objectif. Et il peut prendre une décision
Donc
avant de soumettre définitivement son offre.
c'est comme je sais pas, dans Oracle, un plan d'exécution dans Oracle. Non seulement il exécute la requête, mais en plus il t'a dit ce qu'il avait fait. Donc il a
Exactement.
scanné tel index, etc.
Voilà.
Et donc là c'est pareil, tu peux en fait lui demander qu'est-ce qu'il a utilisé comme similarité pour te répondre oui sur cette
Voilà,
classe-là.
voilà. Donc le
D'accord.
modèle permet de dire oui, c'est une offre d'emploi Java parce que. Et ça, on peut remonter cette information-là au recruteur.
D'accord.
Et le recruteur, en fonction de ça, peut prendre une décision stratégique pour lui-même. Il peut se dire, ben non, moi je voulais faire une offre d'emploi uniquement Java. Ça veut dire que les gens vont se tromper. Peut-être un spécialiste que moi je veux, il va voir l'offre, il ne candidatera pas. Il va dire, ça c'est une offre fourre-tout où on veut tout le monde, mais. Tu comprends ce que je veux
Ouais, je
dire?
comprends.
Hein? Si
Ouais,
c'est
c'est ciblé.
une boîte de conseil, le candidat peut se dire, ben tiens, si je candidate à cette offre-là, demain, on peut m'envoyer faire plutôt du .NET alors que je vais faire du Java. Donc.
D'accord. Ok, et donc concrètement, là, tu dis, voilà, tu as énoncé ce qu'il fallait faire pour entraîner l'algorithme. Et d'après toi, il faut passer combien de temps, il faut combien d'exemples pour que l'algorithme se généralise bien, en fait.
Je ne sais pas s'il faut parler du nombre d'exemples. Déjà, une chose qui est importante, c'est la qualité des exemples. Avant de parler du nombre, il faut prendre en compte la qualité des exemples.
D'accord. Donc avec les critères qu'on a dit, c'est-à-dire de un exemple et un contre-exemple assez proche, etc.
Voilà, et un exemple qui vaut vraiment la peine.
Donc en fait, tu entraînes, je sais pas, 10 exemples. Après, avec ton validation set, tu regardes si ça généralise bien. Et tant que ça généralise pas bien, tu continues à
Voilà, c'est
l'apprendre.
ça. Il y a
D'accord.
des techniques en fait. On utilise les learning curves pour
D'accord.
voir, en fonction, normalement, le nombre d'exemples, on voit le taux d'efficacité du
D'accord.
modèle. On peut continuer à augmenter le nombre d'exemples. À un certain moment, on se rend compte que bon, quand on fait bouger le nombre d'exemples, le taux d'efficacité n'avance plus. Donc, pour comprendre que tu es stable au niveau du nombre d'exemples, bon, et là, tu peux jouer.
Là, tu peux dire j'arrête d'entraîner le
Voilà,
truc parce qu'il
exactement.
est
Tu peux, voilà,
suffisamment
tu peux,
efficace.
voilà, et après, tu peux aussi intervenir sur d'autres paramètres
Est-ce
du
que
modèle.
tu réalimentes l'apprentissage avec les résultats de l'algorithme lui-même? Je m'explique. Si j'ai atteint ma learning curve de mon algorithme,
Voilà, c'est.
est-ce que les résultats même d'un nouveau texte qui viendrait se faire classifier, est-ce que tu le fais rentrer dans le système lui-même comme nouvel exemple de référence entre guillemets?
Tu peux le faire. En fait, ce qui se fait normalement,
Ouais.
c'est j'ai fait mon modèle. SVM tolère des erreurs. C'est
D'accord.
d'ailleurs pour ça qu'il est efficace.
Ouais.
Parce que c'est parce qu'il tolère les erreurs, ça fait un peu contradictoire. Mais c'est parce qu'il tolère le modèle de base
Ouais.
ne tolérait pas les erreurs. C'était vraiment optimal, hyperplane. C'est-à-dire
D'accord.
que, en fait, dans l'espace vectoriel, il définit une decision boundary.
Donc en fait,
Donc, dans.
décision de boundary, si on reprend l'exemple du graphe en 2D, je
Voilà,
partage
c'est une
mon
droite.
espace
Voilà.
suivant une droite et c'est tout.
Exactement. Tu as
D'accord.
une droite. Donc, lui, il représente juste les coordonnées d'une droite. Et tu es dans le plan. Et là, quand il va voir un nouvel exemple, ça se trouve dans le plan. Quand il a tracé sa droite, ça se trouve en dessus ou au-dessus.
D'accord,
Là, il peut classer comme positif ou négatif. Il faut prendre cette représentation-là. C'est-à-dire, concrètement, le produit scalaire, c'est supérieur à une certaine valeur. C'est positif. Sinon, c'est négatif. Positif, ça signifie que ça appartient à la classe qui correspond au modèle. Négatif, ça ne correspond pas.
D'accord.
Et donc, quand on a entraîné le modèle, il peut arriver qu'on a un exemple qui est mal classifié. Donc, l'exemple, il est mal classifié. Je sais
Donc là,
pertinemment
concrètement,
que c'est.
il va se tromper de droite, en fait. À un
Voilà.
moment, il y a un segment de droite qui ne sera pas au
Voilà,
bon endroit.
oui, l'exemple, il s'est trompé. Donc, il s'est trompé. Donc, je peux relever les éléments où il s'est trompé
D'accord.
et je réintroduis plus tard. Quand je relance mon modèle, j'introduis cet exemple-là ou plusieurs exemples de ce type en disant ça, c'est du positif. Et j'améliore mon modèle.
D'accord. Et donc pour toi, ça passe par forcément un humain en fait qui revalide derrière. C'est pas, tu laisses pas le système s'auto-alimenter
Non,
parce
non,
que
non,
là,
non,
tu
non, non.
risques qu'il fasse des plus grosses erreurs
Non,
après.
non, non, tu ne laisses pas s'auto-alimenter. Il faut garder quand même le contrôle,
D'accord, c'est
savoir
d'accord. Et le contrôle
comment le
intervient là.
truc.
Ok.
Tu as le front-off, tu as un système qui est live. Et le modèle, tu peux encore le tester en back-office.
D'accord.
Après, il faut faire attention. Quand on dit qu'il tolère des erreurs, le fait de tolérer des erreurs, c'est pour permettre une meilleure généralisation. Sinon, on tombe sous le coup dans le domaine de machine learning, on appelle overfitting. Overfitting, en fait, c'est que le modèle généralise très bien. Très bien sur
Ouais, trop
l'exemple
bien.
de. Trop bien, oui.
Ouais.
Il génère trop bien sur l'exemple de training. Mais si on propose un nouveau un nouveau cas, il ne va pas s'en sortir.
D'accord.
Parce qu'il essaie de, si on met les points dans l'espace, il essaie de contourner tous ces points-là.
Ah, d'accord.
Voilà.
Donc, tu as fourni une optimisation sur un ensemble
donné. Sur un exemple précis.
D'accord.
Donc, si un élément est comme cet exemple précis, très bien.
D'accord.
Mais si ça s'écarte un tout petit peu, il échoue.
D'accord. Oui.
Donc là, c'est quand tu essaies de contraindre, forcer le modèle en quelque sorte à généraliser trop bien sur l'ensemble. Parfois, il faut tolérer 99%, 80%.
D'accord.
Non, 80%, c'est avec SVM, je vise en général 95, 96% et c'est très bien.
D'accord.
Au-dessus de 95%. Parfois, j'ai 100% et ça marche très bien. Sur le truc d'offre d'emploi, Java, ça fait 100%. Sur le training, ça généralise bien.
Quoi. D'accord.
Sans le forcer. Et là, en fait, c'est jamais qu'il a trouvé un optimal hyper plein, c'est tant mieux.
Oui, d'accord. Ouais. Et donc, quand ça existe en quelque sorte dans la réalité, c'est-à-dire quand la décision d'expert, elle est facile, cette limite, elle est facile à tracer,
facile
et donc l'algorithme, il va facilement la tracer.
Exactement.
D'accord.
Après,
donc, c'est pas magique, en fait. S'il y a des cas qui sont toujours aux limites, bah, peut-être qu'on aura un ou deux exemples qui seront... Ouais, je comprends bien. Ok, bah, ça a l'air génial. Donc, allez, c'est bon, moi, je le mets en place demain. Sur mon site ou quoi? Comment je fais?
Bon, comment tu fais? Déjà, une chose, se mettre dans une configuration d'architecture orientée service. Il faut vraiment faire un service de classification.
D'accord, donc toi tu l'isoles sur un service.
Je l'isole.
Donc c'est quoi son interface à ce service? Il prend des documents,
un texte
il répond la liste des catégories à laquelle il s'applique.
Exactement.
D'accord.
La liste des catégories auxquelles il s'applique.
Bon, ok, donc interface très simple.
Interface simple.
Ok.
Interface simple qui prend un exemple, un texte, et me dit ça fait partie de telle catégorie.
Ok, donc on a l'API. Après, il faut faire l'apprentissage, non?
Comment... Il faut entraîner le modèle.
Si on essaie d'être un peu pratique, dans quel langage est-ce que je peux utiliser SVM?
SVM peut s'utiliser en C, en Python,
d'accord,
en Java.
D'accord.
La librairie dans tous ces langages-là.
Et qui est-ce qui a écrit la librairie de référence?
Donc, la librairie de référence, c'est un laboratoire à Taïwan.
D'accord.
Et l'équipe de référence de SVM, c'est le modèle, il a été défini dans le laboratoire Etianti. Ça, c'était en 1995.
D'accord.
Par Cortés et Vavnik. C'est important de
les mentionner.
Voilà, de les mentionner, les auteurs. Et... la librairie qui fait autorité.
Et c'était dans quel, excuse-moi, dans quel labo?
Le laboratoire Etianti.
À Taïwan?
Non, c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Le laboratoire,
d'accord.
Le modèle, okay, Vavnik et Cortés, c'est Etianti, okay. SVM. Et la librairie libre SVM, ça c'est l'implémentation
okay.
De SVM.
Ça a été fait par les Taïwanais.
Voilà,
d'accord.
C'est dans un laboratoire à l'Université de Taïwan.
Ok, donc aujourd'hui on peut prendre leur code.
C'est libre.
C'est une librairie.
C'est une librairie.
D'accord, super.
C'est ouvert.
Donc on n'est pas obligé de réinventer les espaces vectoriels, tout ça.
Non.
Tout ça, c'est, les calculs, ils vont être faits par la librairie.
Oui, mais la librairie, il faut bien comprendre, la librairie a son interface.
Ouais.
L'interface ne prend que des vecteurs.
D'accord.
Donc en fait, c'est un fichier texte. Fichier texte d'un format particulier, ce sont que des nombres réels. Donc,
il faut quand même faire
la première colonne, c'est 1 moins 1,
ouais.
Vous dites plus, c'est-à-dire la classe positive,
ouais.
Moins 1. Donc, je suis dans le modèle Java, si je classifie du Java, le texte en fait que je fournis comme training set, si j'ai 1000 exemples, j'ai 1000 lignes. Chaque ligne, c'est un exemple.
D'accord.
Donc, la ligne, je vais dire plus 1.
Pour dire ça, c'est du Java.
Ça, c'est du positif, c'est du Java.
Okay.
Et chaque colonne qui va suivre, ce sont en fait des valeurs de différentes dimensions.
Donc
si la première colonne,
les
mots, voilà.
Okay.
Si la première colonne représente Java, donc la valeur qui est là maintenant, c'est la valeur correspondante.
D'accord, c'est un réel.
C'est un réel.
Qui dit, est-ce que c'est beaucoup Java ou pas beaucoup Java?
Voilà, et ça, c'est moi qui l'ai défini.
D'accord.
Donc, le modèle ne te l'impose pas. Il ne nous l'impose pas, c'est à nous de le définir. Dans le cadre de la recherche d'informat des offres d'emploi, je considère uniquement la fréquence du terme.
D'accord, donc le réel, c'est la fréquence du terme, dans le texte.
Voilà, exactement,
d'accord,
la fréquence du terme. Donc, la première colonne, c'est du Java. Si s'il y figure 2, c'est que 2, c'est la fréquence du thème dans le texte.
D'accord.
Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, qui est la dernière dimension que je considère. Idéalement, il faut avoir un dictionnaire. Donc, à partir de son corpus, ou avoir un dictionnaire. Parce que, évidemment, restons sur notre cas de 2 dimensions. Si j'ai ingénieur Java, là, j'ai 2 dimensions. Le prochain texte a aussi un titre, disons, ingénieur Python. Là, j'ai 2 dimensions. Si je prends l'ensemble du corpus de ces 2 offres,
ça fait ingénieur Java Python. D'accord.
Donc, il est important, il est nécessaire d'ailleurs, pour le modèle, que chaque document soit représenté dans toutes ses dimensions. Dans l'offre Java, je vais dire ingénieur, ça apparaît une fois, Java une fois, ça c'est la valeur, et Python 0.
D'accord.
Voilà. Donc je vais le représenter comme le vecteur 1, 1, 0. Voilà, okay. C'est les coordonnées du vecteur.
D'accord.
L'offre Python, les coordonnées vont être 1, 0, 1. Donc voilà
comment on va représenter. D'accord, donc ça c'est ce que tu dois produire pour
ça,
pouvoir
c'est ce qu'on doit produire.
Exploiter la librairie.
Exactement. Exactement.
Et ça tu le fais tout seul ou...
Ben, non, on ne le fait pas manuellement.
Ouais.
Et donc là justement, on a des outils,
ouais.
On a Lucene Solar.
D'accord.
Et donc je l'utilise pour produire. Donc essentiellement Solar déjà. Parce qu'avec Solar, j'ai l'analyseur. Parce que, en fait, la classification des textes, ce qui est magnifique, c'est que ça partage beaucoup de caractéristiques avec la recherche d'informations.
D'accord.
Parce qu'il faut analyser le texte.
Et donc,
il faut
ça, effectivement...
ramener les termes à l'ère radicaux. Au début, on a parlé de mots, de dimension. Une dimension, c'est un mot. En réalité, une dimension, c'est un terme.
D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait un mot. C'est
le mot après analyse.
Le mot après.
Voilà.
Donc, par exemple, on peut par exemple enlever les accents,
exactement.
Enlever les pluriels, considérer
les pluriels.
Que le masculin féminin c'est la même chose.
C'est la même chose.
D'accord.
Ramener les mots à leurs radicaux.
D'accord. Donc, par exemple,
via le stemming.
Donc le stemming, par exemple, si je soumets cheval et équestre, il va dire bah c'est le même terme en quelque sorte puisque
non, non pas cheval et équestre.
D'accord.
Cheval et chevaux, il va les
ramener. Ah oui, d'accord.
Il peut dire,
cheval, chevalin, par exemple.
Voilà, là, il peut les
ça,
ramener.
Il va dire, d'accord.
Équestre, c'est carrément autre chose.
Okay.
Il ne va pas ramener. Ce n'est pas le même radical.
Ouais.
La
dans cette langue-là, parce qu'après, il pourrait aller chercher le latin. Cheval, c'est.
Oui, mais en général, on va faire le français.
Ouais, ouais, voilà.
Utiliser le stemme français.
On reste dans
pour
le...
les autres voilà. En français.
Donc en gros, tu me dis que pour produire ce. Cette matrice avec tous les vecteurs là, tu utilises Solar.
Donc, j'utilise Solar
pour qui a déjà implémenté, qui implémente déjà les analyseurs syntaxiques qui
oui,
te permettent d'avoir tes termes. En fait.
Oui, ça sert à rien de recréer la roue.
Et ouais,
il y a déjà
d'accord.
Tous ces analyseurs. Et ce qui est magnifique avec Solar, c'est que dans le schéma, je peux déjà indiquer. Et j'ai plusieurs corps en fait pour les offres d'emploi. Comme j'ai parlé de multi-domaines, je peux créer un corps par domaine. Et donc justement, je fais un dictionnaire. Parce que les dimensions, c'est vraiment. J'ai remarqué pour le domaine de développement d'application, j'avais près de 8000 dimensions. 8000 dimensions, 8000 thèmes
d'accord.
Différents. Donc, espace vectoriel de dimensions,
8000. Ouais.
Et ça, il y avait limité au domaine de développement d'application.
Ouais, d'accord.
Donc, si
ça peut vraiment exploser. Quoi.
Voilà, ça peut exploser. Si je
parce
prends
que...
tout le corpus avec le marketing, avec les commerciaux, avec la mécanique, l'électricité, les dimensions vont exploser.
D'accord, d'accord.
Et
donc, toi, tu réduis en fait dans un domaine fonctionnel.
Il faut ramener dans les domaines où ils ont beaucoup plus de choses en commun
okay.
Et où il y a beaucoup plus de pertinence parce qu'il y a très peu de chances. Qu'une offre en électricité soit classifiée comme Java.
Mais ça veut dire que quand tu soumets un document à la classification, tu le soumets pour un domaine donné.
Effectivement. Si je prends, si mon corpus est trop large, j'aurai trop de zéros.
D'accord.
Si je prends une offre Java, si j'étends la dimension avec des thèmes d'électricité, de mécanique, de marketing et autres, j'ai trop de zéros.
T'as trop de zéros, oui.
Et quand on regarde la particularité des SVM, on se rend compte d'ailleurs que si je mets trop de zéros, les thèmes avec zéro, c'est du produit scalaire.
Et ouais, donc
zéro,
ça impacte en
zéro,
rien.
Ça n'impacte en rien.
Donc c'est plus malin de réduire.
Mais oui, de réduire. Même si je prends une offre marketing, je passe à mon module de classification Java, quand tu vas étendre l'offre marketing dans les dimensions propres à Java, les thèmes Java, les thèmes liés à cette dimension étant pour la plupart absents, ça va faire du zéro. et donc j'aurai du mal à avoir un résultat après le produit scalaire des deux vecteurs qui va être supérieur au seuil qu'on a fixé.
D'accord,
Donc
d'accord.
c'est pour ça qu'il faut
Ouais.
être. Déjà, c'est la décision à prendre pour être efficace. Donc,
D'accord.
solaire, on met un processus d'analyse très clair qui permet d'analyser le texte
Avec un dictionnaire
avec un
fini
dictionnaire
lié au
fini,
document, au
dictionnaire
domaine.
par domaine.
Ouais.
Et donc, quand on prend chaque élément, quand on a fini le processus d'analyse, on a tous les termes importants d'avoir par ordre. De les classer en lexicographique, en ordre lexicographique, c'est ça. Donc, quand on l'a comme ça facilite les choses.
D'accord.
Parce que, bon, après, avec les structures de données, on génère très vite le vecteur de caractéristiques qui est présent. Donc, voilà. Donc, on arrive au dictionnaire avec une sorte de dictionnaire de termes. Donc, pour chaque terme, sa fréquence. Et là, quand je dis que pour mes textes, je prends le thème frequency, solaire permet de le faire.
D'accord. Ouais, je me souviens quand tu disais voilà, pour obtenir la
Voilà.
valeur réelle,
Exactement.
tu utilises la fréquence des termes,
Voilà.
donc la term
Et
frequency,
il y a
c'est.
le composant thème vecteur component de solaire qui permet de récupérer tous ces éléments-là en une requête.
D'accord.
Voilà, et après on peut extraire.
D'accord, donc ce que je retiens,
Comme.
c'est que c'est assez facile finalement avec Solaire
Oui.
d'exploiter une base de documents que tu as déjà. Tu fais ta requête avec tous les termes et il te sort le vecteur prêt à être injecté après dans l'IBSVN comme
Exactement,
exemple.
exactement. Et
D'accord.
tout à l'heure, quand on parlait de l'ensemble de l'ensemble de training set,
Oui.
on a mentionné 10 exemples. Mais en réalité, ce n'est pas 10 exemples. Parce que en réalité, il y a plus que ça. On
D'accord.
a 1500, 2000 exemples uniquement pour faire peut-être du Java. Et on peut même en faire, et on peut même avoir besoin de plus que ça. Bon, ces 2000 exemples-là, on ne les fait pas comme ça, à la mano. Dès qu'on tape 2000 exemples, on n'a pas fini pour tous les domaines. Donc, on a un corpus d'offres. Et en tant qu'expert du domaine, je sais ce que peut contenir mes offres Java. Donc, je peux déjà utiliser les capacités de recherche d'informations de Solr
D'accord.
pour me trouver mes exemples pour entraîner le modèle, afin d'entraîner le modèle.
D'accord. Donc
Donc, je les extrais déjà comme ça
OK.
et je fournis au modèle.
Donc là, tu industrialises la création
La
d'exemples
création
finalement.
d'exemples, voilà, j'industrialise en passant aussi par Solaire.
Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est malin ça. Du coup, tu passes pas un temps infini à classifier à la main 1500 documents, quoi.
Ben oui.
OK,
Parce
OK.
que il y a des exemples de corpus qui sont disponibles, qui sont libres sur des réseaux, là, pour des chercheurs en classification,
D'accord.
en recherche d'informations, machine learning. Ils ont des exemples, ils ont des corpus. Et ces exemples-là sont souvent erronés.
D'accord.
Donc, quand on lit même des articles de recherche, ils disent, bon, voilà, on a utilisé tel corpus. Bon, étant donné que ce corpus-là a certaines erreurs, donc, parce qu'ils ne peuvent pas créer tout ça à la main.
D'accord. Donc ils prennent en compte eux-mêmes le petit les erreurs qu'il pourrait y avoir même sur le corpus. D'accord.
Pour tester SVM, je te conseille d'ailleurs un corpus de spam disponible. C'est un corpus Apache, je pense bien, qui est disponible avec près de 10 000 exemples de spam. Et
Donc il
non,
dit ouais.
voilà, et on peut utiliser ça
Pour faire des tests,
voilà, pour
d'accord.
s'amuser.
Et ensuite, à ton module SVM, est-ce qu'il a une API ouverte pour alimenter les exemples? Ou alors ça, tu le fais offline, en quelque sorte, tu l'initialises, tu lui fais son apprentissage offline, et puis après, tu le mets en prod, en quelque sorte, et tu le fais rentrer dans la boucle
Oui,
de classification.
l'apprentissage c'est offline
D'accord,
parce
ouais.
que là c'est vraiment en batch.
Ouais,
Ce n'est
ok.
pas on the fly.
Ouais.
Non, on lui fournit pas un exemple aujourd'hui, un exemple demain, non.
Ouais.
On lui fournit ces 1000 exemples, ces 1500
Voilà.
exemples. C'est
Hop.
mon fichier
Ouais.
texte d'exemple là avec 1000 ou 1500 lignes.
Voilà.
Donc je lui fournis ça en
En
fait.
une fois
Il prend le fichier d'exemple en entrée.
Et ça dure
Il
longtemps, cette phase-là?
Non, c'est pas assez long. Avec ma petite bécane Core i5, là, quand je classifie les offres Java en moins de 2 minutes, c'est fait.
Ah oui, d'accord.
J'ai le modèle.
D'accord.
Étant
Donc c'est
donné que
assez
c'est. Oui,
performant,
ça c'est
comme tu disais,
performant. Étant
ouais.
donné que c'est quelque chose. Bon, après, maintenant, il faut aussi bien. Faut pas écrire. Tu vas écrire ton code de Java. Donc, il faut aussi bien être optimal aussi.
D'accord, ouais. Dans l'utilisation de
Dans
la.
l'utilisation de la
D'accord.
librairie.
Ok. Eh ben, c'est quoi le concurrent de SVM? Qu'est-ce qu'utilisent les gens? Enfin, tout le monde n'utilise pas cette lib développée par des Taïwanais pour faire de la
Non.
classification, quoi.
Non. Et en plus, bon, aujourd'hui, les gens, les développeurs, bon, moi compris, hein, quand il fallait faire la classification des textes, bon, et là, c'est un réflexe, c'est un réflexe de recherche. C'est un
Ouais.
réflexe de recherche, là.
Donc tu
C'est de
t'es
fait.
tourné vers vers les papiers de recherche avant
Oui,
de
quand je parle
commencer les...
de réflexe de recherche, c'est parce
Ouais.
que bon, quand je faisais la thèse, pour proposer quelque chose, il faut faire un état de l'art.
D'accord, ouais.
Donc, c'est le début forcé.
Ouais.
Donc, on ne fait pas une proposition si on ne sait pas tout ce qui est fait
Bien
à un
sûr.
moment donné.
C'est
Donc, quand
la
je veux
base de la
commencer,
science,
exactement, c'est
ouais.
la base de la science. Donc, quand je veux faire de la classification de texte, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire de la
Mais
classification de
donc
texte?
qu'est-ce
Qu'est-ce
qui
que
t'a
les gens
amené vers ça?
utilisent?
T'as été voir plutôt les papiers de recherche ou t'as été voir les implémentations les plus efficaces de classification? Parce que
Non.
en tant que développeur, en fait, quand tu te poses ce genre de questions, tu dis qu'est-ce que font tout le monde pour résoudre ce genre de problème? Et du coup, tu tombes sur des produits ou sur des frameworks. Tu remontes pas souvent à la recherche, en fait.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Là, ça
Oui.
s'adaptait, je pense, parce que c'est un domaine qui est assez ouvert et tu peux encore te tromper, en fait. Et même, je pense qu'il peut même y avoir des produits construits sur
C'est clair.
les algorithmes qui sont pas les plus performants, en quelque sorte.
C'est clair, c'est clair. Et déjà, je t'indique ma démarche. Comment c'est passé? En tant que développeur, je pense librairie. On est d'accord. Je pense librairie. Je dis, bon, ok, pour classifier le texte, est-ce que j'ai une librairie qui me permet de faire ça?
Bah, c'est clair. Ouais.
Voilà.
C'est le raisonnement du
Voilà, est-ce que,
développeur.
voilà, raisonnement du développeur. Donc, est-ce qu'il y a une librairie? Oui, basta. Apache Mahout,
Apache
qui
Mahout.
est
Allez,
le
go.
framework Apache
Tout le monde en fait,
pour. Voilà.
c'est
Donc,
sexy.
voilà, j'y vais, je regarde. Apache Mahout, c'est une collection d'algorithmes d'apprentissage. C'est une
D'accord.
collection. Donc, Apache Mahout a des algorithmes pour le système de recommandation et du collaborative filtering. Il a un algorithme pour la classification. Et donc, je dis, ils intègrent les algorithmes. Ça, c'est une étape importante. Alors, quels sont les algorithmes disponibles?
D'accord.
Non, c'est pas, vous en avez déjà intégré, mais quels sont les algorithmes disponibles? Donc, je commence à regarder les algorithmes. Et là, forcément, quand on regarde les algorithmes, on va plutôt
Voilà.
du côté des articles de recherche, là.
Ouais, d'accord.
Donc, c'est où je
Donc, c'est ta
m'en
vite pointé sur.
rends. Voilà. Donc,
Et c'était quoi l'algorithme dans Apache Mammoth de classification?
Apache Mahout, c'est naive Bayes. C'est l'algorithme, c'est probabilistique.
D'accord. Et c'est donc démontrer que libSVN est plus performant.
Oui,
Enfin, pas libSVN, mais SVN.
il y a un chercheur sur le sujet qui a en plus travaillé sur la classification des textes. C'est Thorsten Joachim. Text classification. Quoi, son article s'est intitulé Text classification, learning with too many features. Donc, pour montrer encore le fait que les textes ont des caractéristiques particulières,
D'accord.
le nombre de dimensions qu'on a. Donc, il a travaillé là-dessus, il a comparé plusieurs algorithmes. Et c'est SVM qui est sorti du lot. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres algorithmes.
Bien sûr,
Mais
oui.
SVM est sorti du lot en tant qu'algorithme le plus robuste, étant donné le nombre d'exemples qu'on peut consommer. L'algorithme le plus efficace en termes de généralisation sur les nouveaux exemples que le modèle n'a pas vu.
Ouais.
Le taux d'efficacité, c'est ça.
D'accord.
Donc,
Bon, bah, c'est super.
essayer.
Ok. Bah, écoute, moi j'ai appris plein de choses en discutant avec toi. J'espère que tout le monde a aussi bien appris des choses intéressantes. Et même je trouve sur la démarche même, c'est assez intéressant parce que dans le domaine super à la mode du big data et compagnie, on peut vite se retrouver à peut-être sur de mauvaises voies si on creuse pas assez en fin de compte le sujet quoi. Et j'ai l'impression que c'est toi t'as eu cette démarche-là de dire bon Apache Mahout ok je pourrais utiliser ça mais est-ce que je vais pas si je vais pas un tout petit peu plus loin est-ce que je vais pas voir quelque chose de mieux
Exactement, c'est ça. Je pense que c'est la démarche qu'on doit avoir, en fait, à chaque fois qu'on va introduire quelque chose, de prendre le temps, prendre le recul, de dire qu'est-ce qui se fait le mieux.
Ouais. Et pas forcément qu'est-ce
Et
qui fait le plus à la mode, entre
voilà,
guillemets.
voilà.
Ouais.
Parce que ce qui se fait à la mode, ça peut être ce qui se fait le mieux, c'est tant mieux.
Exactement, ouais.
Voilà.
Et ça, c'est
Mais
quand c'est mature, quoi.
voilà,
Sinon.
quand c'est mature. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que quand on a une librairie comme Lib'SVM, c'est un truc vraiment, c'est magnifique. Le modèle derrière, non, mais c'est vrai.
T'es fan là?
Non, ben oui,
Ouais.
c'est vrai. Le modèle derrière,
C'est
et je
du
me
code
souviens,
taïwanais quand
ben oui,
même.
c'est vraiment magnifique. Et j'avais une question.
D'accord.
Quand je travaillais là-dessus, et j'ai posé la question au labo, en question, c'est le principal chercheur d'ailleurs,
D'accord.
c'est le professeur Chin, Lin Chin, je pense, oui, voilà, c'est ça, si je ne.
On mettra les
Je,
références.
voilà, c'est ça, oui, c'est important, quoi. Et là, il m'a répondu en une phrase. Il m'a répondu en une phrase, et ça disait tout. Ça donnait toute la réponse à mes interrogations. Et l'interrogation, c'était justement parce que comment est-ce que, quand j'ai classifié, je peux venir derrière savoir pourquoi est-ce que tel élément est dans telle classe ou
Ouais,
pas
c'est ce
dans
que tu
telle autre.
disais sur la
Voilà,
traçabilité en fait
la
de.
traçabilité. Et ça, le modèle, là, quand
Donc
on
tu
regarde,
regardes le modèle
ben oui,
et
puisque
tu.
dans le modèle, en fait, il met le vecteur avec un vecteur de poids. Et le vecteur de poids, c'est les différents termes de la dimension. Donc, quand je vais regarder le vecteur de poids, si on me dit le poids du terme Java, c'est 2. Le poids du terme .NET, c'est moins 1. Le poids du terme Python, c'est moins 3. Ça a une signification pour SVM. Pour SVM, il est en train de dire, si tu m'écris une offre pour cette classe-là, il y a du Java. Si j'utilise ce modèle-là pour classifier, disons plutôt dans ce sens-là, si j'utilise ce modèle-là pour classifier une offre et que dans cette offre-là, il y a du .NET, alors je vais commencer à être négatif parce que c'est moins 2. Donc moins 2, je vais vers le négatif. S'il y a du Java, je vais vers du positif, c'est plus 2. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois, je
Et
vois.
donc, et comme après, pour la décision, il faut que ce soit la valeur soit supérieure à un seuil en général positif. Je comprends très bien
D'accord.
que en examinant le modèle, je peux extraire les termes qui permettent de classifier les éléments dans cette catégorie-là. C'est comme ça que dans mes exemples, j'ai tenu compte de Spring, des éléments web et tout. Et après, je me suis rendu compte que Struts 2 permettait de classifier des offres comme Java Web.
D'accord.
Sans que je n'aie moi-même
À réaliser
voilà,
cette
spécifié
conclusion.
ça directement.
Ouais,
Donc
donc
tu vois, non.
c'est super intéressant et ça montre bien
Voilà.
le
Donc c'est
ce que ça
important.
peut porter. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et c'était vraiment un plaisir.
Non, c'est moi qui te remercie. C'est toujours bien d'échanger sur le sujet qui nous passionne.
Ouais, exactement. Merci beaucoup, Majoris.
Bon,
À
merci à
bientôt.
toi aussi. À très bientôt.